Chapitre 2. Alors qu'il mettait la main sur la poignée de la porte, Winston vit qu'il avait laissé le journal ouvert sur la table. « Abba Big Brother » était écrit partout, en lettres suffisamment grandes pour être lisibles à l'autre bout de la pièce. C'était inconcevable et stupide, mais il a réalisé, même dans sa panique, qu'il n'avait pas voulu salir le papier crémeux en fermant le livre, alors que l'encre n'était pas sèche. Il retint son souffle et ouvrit la porte. Instantanément, une chaude vague de soulagement le traversa. Une incolore. Une femme à l'air accablé, aux cheveux ternes et au visage plissé, se trouvait à l'extérieur. « Oh, camarade !» dit-elle d'une voix lugubre et pleurnicharde. « J'ai cru vous entendre entrer. Pensez-vous que vous pourriez venir jeter un coup d'œil à notre évier ? Il est bouché et... » C'était Madame Parsons, l'épouse d'un voisin de palier. Madame était un mot peu apprécié par le parti. Vous deviez appeler tout le monde « camarade ». Mais avec certaines femmes, on l'utilisait instinctivement. C'était une femme d'une trentaine d'années, mais qui semble beaucoup plus âgée. Elle donnait l'impression qu'il y avait de la poussière dans les plis de son visage. Winston la suivit sur le palier. Ces travaux de réparation amateur étaient une plaie presque quotidienne. Les appartements de la résidence de la Victoire dataient de 1930, ou à peu près, et tombaient en morceaux. Le plâtre s'écaillait constamment des plafonds et des murs. Les tuyaux éclataient à chaque hiver quand venait le gel. Le toit fuyait lorsqu'il neigeait. Le système de chauffage était généralement ce qui fonctionnait le moins mal, car il tournait au minimum pour des raisons économiques. Les réparations, sauf ce que vous pouviez faire par vous-même, devaient être approuvées par des comités lointains qui pouvaient reporter la réparation d'une vitre jusqu'à 2 ans. Bien sûr, c'est seulement parce que Tom n'est pas à la maison, a vaguement déclaré Madame Parsons. L'appartement des Parsons était plus grand que celui de Winston, et miteux d'une manière différente. Il y régnait le chaos, comme si cet endroit avait été piétiné par un animal géant et furieux. Des objets sportifs jonchaient le sol, des crosses de hockey, des gants de boxe, un ballon de football éclaté, un short en sueur à l'envers, et sur la table il y avait des reliquats de nourriture et de livres d'exercice en mauvais état. Sur les murs, il y avait des bannières écarlates de la Ligue de la Jeunesse et des Espions, et une affiche grandeur nature de Big Brother. On retrouvait l'odeur habituelle de choux bouillis, commune à tout le bâtiment. Pourtant, une odeur de sueur plus forte l'emportait sur le reste, qui, on le savait dès le premier contact, même si c'était difficile à expliquer, était la sueur d'une personne absente pour le moment. Dans une autre pièce, une personne avec un peigne et un morceau de papier toilette essayait de suivre la musique militaire qui provenait encore du télécran. « Ce sont les enfants !» a déclaré Madame Parsons, jetant un regard à moitié inquiet sur la porte. « Ils ne sont pas sortis aujourd'hui. » Et bien sûr, elle avait l'habitude de rompre ses phrases au milieu. L'évier de la cuisine était rempli presque à ras-bord d'une eau verdâtre qui sentait plus que jamais le chou. Winston s'agenouilla et examina l'articulation angulaire de la tuyauterie. Il détestait utiliser ses mains, et il détestait se pencher, ce qui le faisait parfois tousser. Madame Parsons regardait impuissante. Bien sûr, si Tom était à la maison, il l'aurait réparé immédiatement, a-t-elle déclaré. Il aime tout ce qui est bricolage. Il est doué avec ses mains. Parsons était un collègue de Winston au ministère de la Vérité. C'était un homme gras, mais actif, d'une stupidité déconcertante, une masse d'imbécilité enthousiaste, un de ces endoctrinés totalement aveuglés et dévoués, sur qui, plus encore que sur la police de la pensée, la stabilité du parti dépendait. À 35 ans, il venait d'être involontairement expulsé de la Ligue des Jeunes, et avant d'obtenir sa promotion dans la Ligue des Jeunes, il avait réussi à rester dans l'espionnage 1 an de plus que l'âge légal. Au ministère, il était employé à un poste subalterne pour lequel l'intelligence n'était pas nécessaire. Mais d'un autre côté, il était une personnalité de premier plan au sein de la commission des sports et de tous les autres comités engagés dans l'organisation de randonnées communautaires, de manifestations spontanées, de campagnes d'épargne et en général des activités volontaires. Il vous confiait avec une fierté tranquille entre deux bouffées échappées de sa pipe qu'il avait été présent au centre communautaire tous les soirs depuis 4 ans. Une odeur de sueur accablante, sorte de témoignage inconscient de l'épuisement de sa vie, persistait même après son départ. « Tu as une clé ?» dit Winston en jouant avec l'écrou sous le coude du tuyau. « Une clé ?» déclara Madame Parsons, tel un invertébré. « Je ne sais pas, je n'en suis pas sûr. Peut-être que les enfants... » Il y eut des piétinements de bottes et un autre souffle d'explosion quand les enfants entrèrent avec fracas dans le salon. Madame Parsons apporta la clé. Winston laissa couler l'eau et retira avec dégoût le bouchon de cheveux humains qui avait obstrué le tuyau. Il se nettoya les mains, du mieux qu'il put, dans l'eau froide du robinet, et s'en retourna dans l'autre pièce. « Les mains en l'air !» cria une voix sauvage. Un beau et solide garçon de 9 ans avait surgi de derrière la table et le menaçait avec son jouet, un pistolet automatique, tandis que sa petite sœur d'environ 2 ans plus jeune fit le même geste avec un bout de bois. Tous deux étaient habillés en shorts bleus, en chemise grise, avec des foulards rouges qui étaient l'uniforme des espions. Winston leva les mains au-dessus de sa tête, mais avec un sentiment de malaise, tant le comportement du petit garçon était vicieux. Cela n'était pas tout à fait un jeu. « Tu es un traître !» cria le garçon. « Tu es un criminel de la pensée. Tu es un espion eurasien. Je vais te tirer dessus. Je vais te vaporiser. Je vous enverrai dans les mines de sel. » Soudain, ils bondissaient tous les deux autour de lui en criant « Traître !» et « Criminel de la pensée !» la petite fille imitant son frère dans tous les mouvements. C'était un peu effrayant, comme de petits tigres gambadants qui grandissent rapidement pour devenir des mangeurs d'hommes. Il y avait une sorte de férocité calculatrice dans l'œil du garçon, un désir assez évident de cogner ou de donner un coup de pied à Winston et la conscience d'être presque assez grand pour le faire. C'était du bon travail. Mais ce n'était pas un vrai pistolet qu'il tenait, pensa Winston. Les yeux de Madame Parsons allèrent nerveusement de Winston vers les enfants et vice-versa. Dans la lumière plus forte du salon, il remarqua avec intérêt qu'il y avait effectivement de la poussière dans les plis de son visage. « Ils deviennent si bruyants, » dit-elle. « Ils sont déçus parce qu'ils ne peuvent pas aller voir la pendaison. C'est pour cela. Je suis trop occupée pour les emmener. » Et Tom ne reviendra pas assez tôt du travail. « Pourquoi ne pouvons-nous pas aller à la pendaison ?» rugit le garçon de sa voix énorme. « On veut voir la pendaison ! On veut voir la pendaison !» chantait la petite fille, toujours en train de faire des cabrioles. Certains prisonniers eurasiens, coupables de crimes de guerre, devaient être pendus dans le parc ce soir-là, se souvient Winston. Cela se passait environ une fois par mois, et c'était un spectacle populaire. Les enfants réclamaient toujours qu'on les emmène voir ce spectacle. Il prit congé de Madame Parsons et se dirigea vers la porte. Mais il n'avait pas fait 6 pas dans le passage qu'il reçut un coup extrêmement douloureux à l'arrière de la nuque. Ce fut comme si un projectile brûlant l'avait transpercé. Il se retourna juste à temps pour voir Madame Parsons traîner son fils dans l'embrasure de la porte, tandis que le garçon mettait dans sa poche une fronde. « Goldstein !» beugla le garçon alors que la porte se refermait sur lui. Mais ce qui frappa le plus Winston, c'est cette expression d'impuissance, la peur sur le visage grisâtre de la femme. De retour dans l'appartement, il passa rapidement devant le télécran et s'assit de nouveau à la table en se frottant toujours le cou. La musique du télécran s'était arrêtée. à la place, la voix de l'armée se faisait entendre avec une sorte de brutalité. Fit une description de l'armement de la nouvelle forteresse flottante qui venait d'être ancrée entre l'Islande et les îles Féroé. Avec ses enfants, pensait-il, cette misérable femme doit mener une vie de terreur. Dans un an ou deux, ils la surveilleront nuit et jour pour déceler les symptômes de dissidence. Presque tous les enfants de nos jours étaient horribles. Le pire, c'est qu'à travers des organisations comme les espions, ils étaient systématiquement transformés en petits sauvages ingouvernables. Et pourtant, cela ne produit en eux aucune tendance à se rebeller contre la discipline du parti. Au contraire, ils adoraient le parti et tout ce qui s'y rattache. Les chants, les processions, les bannières, la randonnée, le forage avec des fusils factices, les slogans, le culte de Big Brother, tout cela était une sorte de jeu glorieux pour eux. Toute leur férocité a été transformée vers l'extérieur contre les ennemis de l'État, contre les étrangers, les traîtres, les saboteurs, les criminels de la pensée. C'était devenu la norme que les personnes de plus de 30 ans aient peur de leurs propres enfants. Et pour cause. Il n'y avait pas une semaine sans que le Times ne relate dans un article l'histoire d'un enfant héros, c'était l'expression généralement utilisée, qui, en espionnant, avait découvert des propos compromettants de leurs propres parents et les avait dénoncés à la police de la pensée. La piqûre du projectile s'était dissipée. Il prit la plume sans enthousiasme, se demandant s'il pouvait trouver quelque chose d'autre à écrire dans le journal. Soudain, il repensa à O'Brien. Il y a des années, combien de temps s'était écoulé depuis, 7 ans peut-être, il avait rêvé qu'il marchait dans une pièce sombre, et quelqu'un, assis près de lui, lui avait dit « Nous nous réunirons dans un lieu où il n'y a pas de ténèbres. » Cela a été dit très calmement, presque avec désinvolture. Une déclaration, pas un ordre. Il avait continué à marcher sans faire de pause. Ce qui était curieux, c'est qu'à ce moment-là, dans le rêve, les mots ne l'avaient pas beaucoup impressionné. Ce n'était que plus tard et progressivement qu'ils avaient semblé prendre de l'importance. Il ne pouvait pas se rappeler si c'était avant ou après avoir rêvé qu'il avait vu O'Brien. Il ne se souvenait pas non plus de la date à laquelle il avait identifié la voix comme étant celle d'O'Brien. Ce qui était sûr, c'est qu'il l'avait bien identifiée. C'est O'Brien qui lui avait parlé des ténèbres. Winston n'avait jamais pu se sentir rassuré. Même le matin, lorsqu'il y eut ce flash dans le regard, il lui était impossible d'être sûr si O'Brien était un ami ou un ennemi. Cela semblait sans grande importance. Il y avait un lien de compréhension entre eux, plus important que l'affection ou la partisanerie. « Nous nous rencontrerons dans un lieu où il n'y a pas de ténèbres », avait-il dit. Winston ne savait pas ce que cela signifiait, seulement que d'une manière ou d'une autre, il se réaliserait. La voix du télécran s'arrêta. Une sonnerie de trompette, claire et belle, flottait dans l'air stagnant. La voix grinçante a poursuivi. « Attention ! Votre attention, s'il vous plaît !» Un flash d'information est arrivé du front de Malabar. Nos forces dans le sud de l'Inde ont remporté une glorieuse victoire. Je suis autorisé à dire que l'action que nous rapportons maintenant pourrait bien amener la guerre à son terme très prochainement. Voici le communiqué. Les mauvaises nouvelles arrivent, pensait Winston. Et bien sûr. Suite à une description sanglante de l'anéantissement de l'armée eurasienne, avec des chiffres impressionnants de morts et de prisonniers, est arrivée l'annonce. Qu'à partir de la semaine prochaine, la ration de chocolat serait réduite de 30 grammes à 20. Winston a encore rôté. L'alcool se dissipait, laissant un sentiment de dégonflement. Le télécran, peut-être pour célébrer la victoire, peut-être pour noyer le souvenir du chocolat perdu, s'est conclu sur « Oceania, c'est pour toi ». on était censé se tenir au garde-à-vous. Cependant, dans sa position actuelle, Winston était invisible. « Oceania, c'est pour toi » a fait place à une musique plus légère. Winston s'est avancé vers la fenêtre, le dos tourné au télécran. La journée était encore froide et claire. Quelque part, au loin, une bombe explosa avec un bruit sourd et un écho rugissant. En ce moment, une vingtaine ou une trentaine de bombes tombaient sur Londres chaque semaine. Dans la rue, le vent faisait voler en éclats la fiche déchirée et le mot « Anksok » apparaissait et disparaissait. Anksok. Les principes sacrés de l'Anksok. Novlangue, double réflexion, la mutabilité du passé. Winston avait l'impression d'errer dans les forêts de fonds marins, perdu dans un monde monstrueux où il était lui-même le monstre. Il était seul. Le passé était mort, l'avenir était inimaginable. Quelle certitude avait-il qu'un seul être humain était de son côté? Et comment savoir que l'hégémonie du parti ne s'installerait pas pour toujours? Comme une réponse, les trois slogans sur le visage blanc du ministère de la Vérité lui sont revenus. La guerre, c'est la paix. La liberté est un esclavage. L'ignorance fait la force. Il sortit de sa poche une pièce de 25 cents. Voilà. Les mêmes slogans ont été inscrits en minuscules caractères distincts. Et sur l'autre face de la pièce, la tête de Big Brother. Même sur la pièce, les yeux vous poursuivaient. Sur les pièces de monnaie, sur des timbres, sur les couvertures de livres, sur des banderoles, sur des affiches et sur l'emballage d'un paquet de cigarettes, partout. Toujours les yeux qui vous regardent et la voix qui vous enveloppe, endormis ou éveillés, en train de travailler ou de manger, à l'intérieur ou à l'extérieur, dans le bain ou au lit, pas d'évasion. Rien ne vous appartenait, sauf les quelques centimètres cubes à l'intérieur de votre crâne. Le soleil s'était déplacé, et les myriades de fenêtres du ministère de la Vérité ne reflétaient plus rien. C'était sinistre, comme les meurtrières d'une forteresse. Son cœur s'est arrêté devant l'énorme forme pyramidale. Le bâtiment était trop solide. Il ne peut pas être pris d'assaut. Un millier de bombes ne l'abattraient pas. Il se demandait à nouveau pour qui il écrivait le journal. Pour l'avenir? Pour le passé? Pour une époque qui pourrait n'être qu'imaginaire? Et devant lui, il y avait non pas la mort, mais l'anéantissement. Son journal serait réduit en cendres, et lui-même en vapeur. Seule la police de la pensée lirait ce qu'il avait écrit, puis effacerait toute trace de son existence. Comment pourriez-vous faire appel à l'avenir quand aucune trace de vous, pas même un mot anonyme griffonné sur un morceau de papier, ne pourrait physiquement survivre? Le télécran sonna 14 heures. Il doit partir dans 10 minutes. Il doit être de retour au travail à 14h30. Curieusement, le carillon semblait lui avoir redonné du baume au cœur. C'était un fantôme solitaire qui disait une vérité que personne n'entendrait jamais. Mais tant qu'il la dirait, d'une manière obscure, elle continuerait d'exister. Ce n'est pas en vous faisant entendre, mais en restant sain d'esprit que vous avez perpétué le patrimoine humain. Winston retourna à sa table, trempa sa plume et écrit. Au futur ou au passé, à un temps où la pensée est libre, où les hommes sont singuliers et vivent ensemble, à une époque où la vérité existe et ce qui est fait ne peut être défait, depuis l'époque de l'uniformité, de l'âge de la solitude, de l'âge de Big Brother, de l'âge de double pensée, salut. Il était déjà mort, se dit-il. Il lui semblait que ce n'est que maintenant, lorsqu'il commença à pouvoir formuler ses pensées, qu'il fit le pas décisif. Les conséquences de chaque acte sont incluses dans l'acte lui-même. Il écrit « Le crime par la pensée n'entraîne pas la mort. Le crime par la pensée est la mort. » Maintenant qu'il s'était reconnu comme un homme mort, c'est devenu important de rester en vie le plus longtemps possible. Deux doigts de sa main droite étaient tachés d'encre. C'était exactement le genre de détail qui pourrait vous trahir. Un fanatique du ministère, une femme probablement, quelqu'un comme la petite aux cheveux de sable ou la fille aux cheveux noirs du département des fictions, pourrait commencer à se demander pourquoi il avait écrit pendant l'intervalle du déjeuner, pourquoi il avait utilisé une plume, ce qu'il avait écrit. Ensuite, elles auraient laissé les indices aux services appropriés. Winston alla aux toilettes et se frotta soigneusement l'encre avec le savon brun foncé qui vous râpe la peau comme du papier de verre. C'était exactement ce qu'il lui fallait. Il rangea le journal dans le tiroir. Il était assez inutile de penser à le cacher, mais il pourrait au moins savoir si son existence avait été découverte. Un cheveu posé sur la fin des pages était trop évidente. Du bout des doigts, il ramassa un grain de poussière blanchâtre identifiable et le déposa sur le coin de la couverture d'où il devait tomber si le livre était déplacé.